Agri-Radio, les radios du lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel.
À écouter sur radionormandiejeune.fr.
Nous sommes en direct sur le lycée agricole. Nous allons être ensemble pendant environ une petite heure pour parler de l'autonomie alimentaire comme solution à la lutte du réchauffement climatique. Vous pouvez nous écouter sur votre poste à la fréquence 104.6 ou sur le site radionormandiejeune.fr. Nous allons aborder un thème qui fait débat dans l'agriculture aujourd'hui. C'est le réchauffement climatique et l'autonomie alimentaire. Je vais commencer par vous rappeler ce que ces mots veulent dire. L'autonomie alimentaire correspond au rapport entre les ressources produites sur la ferme et le besoin alimentaire du troupeau pour assurer un objectif de production fixé par l'éleveur. Et le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes et qui modifie durablement les équilibres météorologiques et les écosystèmes. Pour rappel, la dernière grande vague de sécheresse était dans les années 1977, qualifiée par le président à l'époque Valéry Giscard d'Estaing de calamité nationale et l'une des plus importantes qu'a connue la France. En raison d'un manque d'abondance de pluie hivernale, le pays a été touché par un épisode d'intense chaleur. Les éleveurs ont beaucoup été impactés car ne pouvant plus produire ni fourrage ni céréales et par conséquent ne plus nourrir son bétail, se voyaient obligés de les envoyer à l'abattoir. Les rivières à sec avec la mort de la biodiversité aquatique, 105 000 hectares ont été brûlés au cours de l'année 1976, 6 000 décès à cause des chaleurs. Des aides financières et militaires sont mises en place à cette époque exceptionnelle qui est un impôt français instauré afin de financer l'indemnisation des victimes de la sécheresse. L'armée française transportait du fourrage en zone sinistrée, mais également la taxation de l'exportation de la paille et du fourrage. Selon les experts, on estime une hausse de 1 degré entre 2030 et 2059, avec plus de jours chauds que de jours froids. Puis une hausse de 3,5 degrés entre 2060 et 2099. Les précipitations ne devraient pas être impactées, il y aurait une répartition différente des précipitations avec des périodes plus longues sans pluie, comme nous le constatons cette année. Des changements auront donc un impact direct sur l'agriculture, c'est pour cela que nous avons souhaité aborder ce sujet avec vous aujourd'hui, au travers de plusieurs rendez-vous. Sur le plateau, M. Gobet est resté avec nous pour réfléchir avec Tom et Elisa aux leviers qui seraient possibles de mettre en place sur l'exploitation du lycée pour faire face à ces changements climatiques. Ensuite, Quentin, Maxence et Emma nous feront partager leur rencontre avec M. Belloir et M. Mautier, deux agriculteurs qui sont déjà préparés à ce futur changement. Et en fin d'après-midi, vous pourrez retrouver Romain qui est allé à la rencontre de M. Guéraud, expert en fourrage pour la Chambre d'agriculture de Normandie. Mais avant cela, je laisse la parole à Lizzie qui a fait le tour de la presse agricole pour nous éclairer sur la situation et nous présenter quelques expériences menées en France. Bonjour Lizzie.
Bonjour Flora, bonjour à tous. En effet, je vous propose d'abord de faire un petit point sur l'agriculture. Ce secteur nourrit la population, entretient les paysages, valorise les surfaces et stocke du carbone dans les prairies et est, malgré ça, l'agriculture est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre avec 24% des émissions en 2020. Ces dernières années, il y a eu une vraie prise de conscience sur l'enjeu de la lutte du changement climatique. Il a été mis en place un projet de rééducation de 17% d'émissions de gaz entre 2015 et 2025. L'agriculture fait face à un autre problème qui est la production de méthane par la rumination qui fait accélérer le changement climatique. Des solutions sont mises en place rapidement avec des effets immédiats et d'autres avec une mise en place qui prennent plus de temps avec des effets qui se voient au fil des années. La première solution proposée par le lycée agricole du Valentin serait de remplacer le riz gras d'Italie et le maïs par des prairies multi-espèces en adaptant les variétés semées en fonction du type de sol, de l'irrigation, de l'occupation du sol par les animaux et des sécheresses sur le territoire. Sur leur lycée, entre 2011 et 2019, les prairies multi-espèces ont valorisé 13,3 TMS par hectare. Il avait mis en place le mélange Saint-Marcellin, fétuque élevé, dactyle souple, lotier, trèfle et riz gras anglais. Ce sont des espèces qui se complètent. ils ont ajouté des légumineuses. Quelques années après, ils ont évalué une hausse de 4 TMS par hectare en plus. Les vaches consommaient très bien les prairies. La deuxième solution, proposée par un éleveur de vaches laitières en bio, serait d'utiliser des légumineuses déshydratées. L'avantage de l'exploitation est d'être proche d'une usine de déshydratation, ce qui revient moins cher que d'acheter des compléments bio. Les bouchons ont une meilleure conservation et un avantage de souplesse. Cela nécessite une organisation des cultures et anticipation sur l'achat des manques et nécessite également de réaliser des analyses en teneur de protéines pour adapter les rations. La dernière solution proposée par un éleveur de vaches laitières serait l'arrêt du maïs et passer toutes ses surfaces en herbe. Triticale, trèfle incarnée, Micheli tardif. Il s'est équipé d'une station solaire Alex qui se place sur les génisses pour détecter leur chaleur tout en les laissant sur des parcelles éloignées.
Merci beaucoup Lizzie pour cette revue de presse. On s'aperçoit que les éleveurs se sentent concernés par le changement climatique et expérimentent déjà des leviers pour faire face à ces changements. Nous souhaitions aussi échanger avec vous, Monsieur Gobet, sur les leviers envisagés ou déjà expérimentés sur l'exploitation du lycée.
Agri Radio, les radios du lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel.
À écouter sur radionormandiejeune.fr.
Invité du jour.
C'est qui ?
Quoi ? Tu le connais pas ?
C'est l'invité du jour.
Elisa et Tom, je crois que vous vous êtes posé deux questions auxquelles vous avez essayé de trouver des solutions pour l'exploitation du lycée.
Oui, c'est exact. On va décrire en quelques mots notre projet déjà. Maintenant, nous avons proposé de parler de l'autonomie alimentaire de l'exploitation du lycée. Je suis avec Mayo et Elisa. Eh bien, nous sommes toujours accompagnés de M. Gobet pour cette interview.
En octobre 2022, en classe sur le terrain, nous avons pu réaliser un exercice qui consiste à voir si le stock fourrager pour le bétail sera suffisant pour l'année. C'est à l'aide d'un décamètre et un peu de calcul qui nous a permis de réaliser le stock aux tonnes de matière sèche. Nous avons sorti un chiffre de 173 tonnes de matière sèche pour l'année. Avec d'autres calculs, nous avons associé le nombre de têtes qu'il y a dans le cheptel et les quantités qu'il ingère par jour pour chaque espèce. Ensuite, nous avons pu convertir cela sur une année et nous avons constaté qu'il y aurait besoin de 363 tonnes de matière sèche à l'année. C'est donc un grand manque fourrager qui s'est imposé sur l'exploitation puisque c'est plus de 190 tonnes de matière sèche qui s'absentent sur la liste.
Vous avez fait donc en sorte de faire des implantations d'avoine d'hiver qui a malheureusement gelé dû au froid. Bien, sur d'autres implantations où elles vont être bientôt récoltées, comme on sait l'âge d'herbe. Ensuite, vous avez repoussé aussi l'objectif de vélage de 24 à 27 mois. Puis, cette année en février-mars. Vous venez tout juste de faire partie le cheptel de génisse viande. Actuellement, vous retrouvez dans une situation assez délicate. Vous devez favoriser un maximum la sortie en herbe des vaches et des génisses. Est-ce qu'on a bien résumé la situation de l'exploitation jusqu'à présent ?
Alors, rebonjour à tous. Hein. Donc, je suis toujours là, je n'ai pas quitté le studio. Donc j'écoute bien vos questions, l'autonomie alimentaire, etc. Alors, c'est vrai qu'on traverse une période un petit peu délicate, mais cette période-là fait suite aussi aux aléas climatiques qu'on a connus l'été dernier. Alors le bilan fourrager que vous avez fait, c'est vrai, il est insuffisant. Par contre, n'est pas tenu en compte toute l'herbe qui est présente en stock debout sur les pâturages. Déjà, parce que c'est assez dur à quantifier, mais bon, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, ce qu'on évoque, c'est comment on va pallier à ce manque de fourrage. Alors, nous sommes arrivés en 2023, c'est vrai qu'on a terminé le maïs il y a quasiment trois semaines à mois. On a passé les vaches à la ration sèche, c'est-à-dire que j'ai acheté du foin à l'extérieur, c'est la possibilité d'acheter à l'extérieur. Et on nous a passé au foin et on a changé de complémentation. On a mis un complément plus énergétique. Avec cette méthode, nous n'avons pas tellement baissé la production laitière. Alors, l'année 2023, elle est particulière. Vous voyez, nous sommes le 15 mai. Le 15 mai, les trois quarts des semis sont réalisés, finalisés, terminés. Là, on est dans une année où il y a du décalage face à la météo, où il y a eu beaucoup de pluie, mais on ne va pas s'en plaindre, et il y a un décalage par rapport aux températures. Moi, je suis rendu à me dire qu'on est dans une année normale, traditionnelle, comme on connaissait il y a quelques années. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de sécheresse ou des coups de chaud l'été. Hein. Voilà. Alors, pour pallier à ce manque de fourrage, bon, la pousse d'herbe a été décalée un petit peu. C'est vrai qu'on a une période un petit peu d'inquiétude. Là, aujourd'hui, on a beaucoup d'herbes sur nos parcelles. Donc, on récolte, déjà commencé demain. On va récolter déjà une bonne partie de nos ensilages. Et puis, j'ai procédé aussi à de l'achat extérieur. Achat de maïs et puis achat de fourrage d'une parcelle d'un exploitant qui a un souci sur une parcelle de blé. Donc, on va ensiler toute cette herbe-là demain. Donc, ça va constituer un stock. Bon, c'est vrai qu'on a une problématique par rapport à ça, c'est que nous, l'autonomie alimentaire, j'en ai déjà parlé, c'est qu'on n'a pas de surface suffisante pour pallier à ces manques-là. C'est-à-dire que quand on est en système herbagé, comme le nôtre, il faut qu'on ait un peu de surface disponible. Alors, concrètement, j'arrête pas d'en parler, mais c'est vraiment une inquiétude, parce que c'est une inquiétude pour la transition agroécologique, mais c'est une inquiétude aussi pour les stocks constitués des stocks de fourrage. C'est-à-dire que concrètement, comme je l'ai dit dans une autre interview, il nous manque entre 10, 15, 20 hectares de disponibles. Voilà, pour être un peu plus autonome, pour éviter d'avoir recours à l'achat extérieur.
D'accord. Maintenant, on voudrait avoir votre avis sur deux situations qui nous ont été proposées. Comment faire face au déficit fourrager actuel d'exploitation du lycée ? Comment anticiper une période de sécheresse pour le système de production actuel de l'exploitation du lycée ? Pour cela, nous avons réfléchi à deux leviers pour chaque situation venant du jeu de cartes Lorac. Ce jeu, présentant sur une quarantaine de leviers, permet de répondre à l'autonomie alimentaire pour le bétail. Donc, Monsieur Gobet, nous allons vous proposer deux leviers pour la première question. Comment faire face au déficit fourrager actuel de l'exploitation du lycée ? La première est basée sur une prairie artificielle de luzerne. Nous avons choisi cette carte puisque la luzerne peut être aussi bien utilisée en ensilage d'herbe qu'en foin. Puis, comme nous avons connu un été assez sec l'an dernier, la luzerne, elle, tient à la sécheresse, mais aussi au froid, comme nous l'avons ressenti durant ces derniers temps. De plus, elle a un bon apport en azote, ce qui est très important pour la production de lait pour vos vaches. Qu'en pensez-vous ?
Alors, ce que j'en pense, c'est que la luzerne, c'est effectivement un très très bon fourrage. Il y a plusieurs conditions aussi, parce que dans le secteur, il y a des agriculteurs qui ont essayé d'en mettre en place. On a un pH qui n'est pas forcément adapté à la luzerne. Et c'est une exploitation qui est assez compliquée, parce que il faut la récolter au bon stade, il faut pas trop la travailler, parce que tous les éléments intéressants au niveau valeur alimentaire peuvent s'en aller. Bon, ça c'est la première des choses. Et puis et encore une fois, je suis un peu limité par la surface, c'est-à-dire que ces parcelles-là de luzerne, c'est-à-dire que je la bloque pendant 5 ans, parce qu'on fait une implantation 5-6 ans avec une luzerne, c'est-à-dire que c'est une parcelle extérieure. Ça signifie que je vais pas mettre, comme j'ai 15 hectares pour mes vaches laitières qui pâturent 9 mois de l'année, je vous le rappelle, plus les genisses qui pâturent également. Donc ça peut pas être une parcelle qui est présente au niveau du siège de l'exploitation, ça veut dire que c'est une parcelle qui va être implantée à l'extérieur. À l'extérieur, la première parcelle, elle est à 4 km. C'est-à-dire que là, déjà, ça va compliquer l'exploitation un petit peu. Et voilà, mais ça peut être une des pistes, mais ça peut être la luzerne, ça peut être d'autres fourrages aussi, parce que vous avez identifié ce fourrage-là. Mais on travaille à réfléchir aussi à d'autres cultures qu'on pourrait mettre en place. Voilà, mais pas forcément une luzerne. Mais c'est vrai qu'au niveau alimentaire, c'est un très très bon fourrage. Je pourrais avoir la solution aussi d'en acheter directement, parce que ça existe, la luzerne déshydratée. Ça veut dire que là, j'ai recours à l'achat extérieur, c'est-à-dire que économiquement, c'est cher, et faut voir. Faut qu'on arrive à nous travailler avec ce qu'on a aujourd'hui, et puis peut-être que la luzerne, c'est une solution, mais on aura un souci de pérennisation de cette culture-là, puisque les pH sont plus des pH assez bas, et nous on en est quand même des pH assez neutres, et la luzerne a du mal à rester sur les parcelles. Voilà.
Donc c'est pas une très bonne solution.
C'est pas que c'est pas une mauvaise solution, c'est une solution qui se mesure et qui se quantifie. Parce que en fait, le coût d'implantation est assez important, et encore une fois, je bloque une parcelle pendant 5 ans. Donc faut bien que j'y réfléchisse, parce que c'est-à-dire que je vais acheter les semences, on va la mettre en place. Il faut que la luzerne, on soit sûr qu'elle dure 5 ans. Alors, par le passé, il y a eu des essais sur le lycée de Pé. Mais en fait, elle n'a pas résisté. Voilà.
La seconde, c'est sur une technique de sursemis. Celle-ci n'est pas extraordinaire comme technique, mais elle consiste à avoir une bonne couverture du sol et d'avoir un minimum de rendement malgré un déficit hydrique. Qu'en pensez-vous de celle-ci ?
Alors, la technique du sursemis, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'améliorer une prairie existante, c'est-à-dire qu'on va intervenir, alors de préférence en septembre-octobre, quand on a l'humidité, pour que la prairie septembre-octobre, ou tout de suite, on pourrait le faire. Maintenant, ça veut dire que cette prairie-là, que je vais sursemer, il va falloir que je la laisse tranquille, le temps que ce semis-là se mette en place. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, dans une période d'un mois à un mois et demi, je ne peux pas l'utiliser. Alors, c'est vrai que, comme vous avez compris, je suis un peu bridé par les surfaces, donc je ne peux pas trop me permettre de débrayer un hectare et demi pendant un mois et demi. Par contre, à l'automne, là, en fait, dans le circuit qu'on fait, là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaie de renouveler toutes nos prairies en prairies multi-espèces. Hein, j'ai entendu parler de ça tout à l'heure, mais c'est pas une invention, on le fait déjà. Et en fait, comme nos prairies, certaines prairies sont fatiguées ou ont été mal travaillées, etc., on débraye une parcelle d'un hectare et demi, on la met en maïs, qui va nous constituer du fourrage, avec des variétés hyper précoces, qu'on ensile de très bonne heure, c'est-à-dire début septembre, et début septembre, je mets une prairie en place. Alors, avec un objectif, éventuellement, de faire déjà une coupe avant l'hiver. Voilà.
D'accord. Donc, nous allons passer à la question suivante, et j'ai deux autres leviers à vous proposer. Comment anticiper une période de sécheresse pour le système de production actuel de l'exploitation du lycée ? La première se présente sur les prairies multi-espèces. C'est une prairie composée de trois familles de variétés, avec une au moins, une graminée, une légumineuse. Ce système apporte de l'azote au sol et à la légumineuse aussi. Et il y a une valeur alimentaire équilibrée. Mais l'éleveur, il y a au moins deux variations dans la production entre chaque année. Qu'en pensez-vous ?
Alors, ce que j'en pense, déjà se préparer à une période de sécheresse que personne ne peut prédire, parce que ça peut arriver, même si actuellement on a de la pluviométrie, les sols chez nous, hein, les nappes phréatiques sont assez remontées. Je dis pas qu'elles sont à un super niveau, mais c'est déjà mieux qu'il y a deux mois. Voilà, personne ne peut l'anticiper. Ce qu'il faut, c'est que avec le regard un petit peu en arrière de l'année 2022, ce qu'il faut, c'est constituer des stocks tout au long de l'année. C'est-à-dire que dès qu'on a moyen de récolter de l'herbe. Alors, ce qui s'est fait, il y a plusieurs choses, parce que sur le lycée, si je reviens un petit peu en arrière, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup, beaucoup de surface en maïs. C'était 18 hectares et demi. Moi, volontairement, j'ai réduit la surface en maïs. Alors, j'ai pas réduit pour le plaisir, j'ai réduit parce que nous avons des parcelles qui sont exposées. Soit elles sont érosives, soit elles sont proches de maisons. Et donc, l'utilisation des intrants, c'était le sujet d'avant. Il y a des distances d'épandage, etc. Alors, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, personne ne sait trop. Moi, j'ai pas pris de risque. En fait, nous, dans nos pratiques, lycée agricole, ferme pédagogique, on doit être exemplaire dans nos pratiques. Et donc, ces parcelles-là, on les a implantées en prairie. Et en prairie, qui nous permettent de faire des coupes tous les 3-4 semaines. C'est-à-dire que là, demain, on va ensiler. Bon, j'ai acheté 9 hectares à l'extérieur d'un voisin qui a eu un souci sur sa parcelle. Mais tout le reste, c'est chez nous. C'est chez nous. C'est des prairies qui ont été implantées à l'automne dernier, même avant, pour celle de la partie en dessous du verger, et ces parcelles-là vont produire du fourrage tout au long de l'année. Et ça va me pallier aussi à un problème de sécheresse cet été, parce qu'on va constituer beaucoup d'ensilage d'herbe à plusieurs reprises. On peut faire une coupe tous les 3-4 semaines, soit de l'enrubanage. Bon, l'enrubanage, c'est un peu plus réservé, parce que c'est pas le fourrage en lui-même, c'est la conservation, mais c'est la gestion du plastique qui est compliquée. Et puis la mise en œuvre et la distribution aussi, c'est pas très pratique. L'ensilage d'herbe. Et puis, il y a un niveau aussi économique. Hein. L'ensilage d'herbe coûte beaucoup moins cher, on fait un tas, et puis on prend dedans. Quoi. Voilà. Alors après, sur tous les leviers dont tu me parles, oui, les espèces, on les a identifiées, hein. on va en mettre en place. Je suis surtout à la recherche d'une culture qui va permettre de diminuer encore le maïs, voire de le supprimer, voire de l'abandonner, par rapport en relation avec les sujets de tout à l'heure. Parce que si on veut commencer à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires ou plus en utiliser du tout... Alors, on prend encore faire du maïs, mais avec des méthodes alternatives, sachant que c'est hyper compliqué. Voilà. Bon, c'est plus là-dessus qu'on va réfléchir, à mettre d'autres cultures en place. Alors, ce sera peut-être des prairies multi-espèces, ça c'est clair et net, on en a déjà mis. Mais il faut quand même des plantes qui vont m'assurer une bonne valeur alimentaire, une bonne sécurité alimentaire pour mon troupeau laitier. Voilà. Pour le troupeau laitier. Parce qu'au-delà de la production, c'est une chose la production. On doit produire du lait. Mais si demain... Il y a une grosse sécheresse. Moi, si je produis plus de lait, c'est pas le problème. Ce qui m'embêterait le plus, c'est que mes animaux soient pas soignés à leur faim. Ça fait partie d'un concept du bien-être animal. Donc ça, je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que même si ma production laitière baisse, bah, tant pis. Par contre, les animaux restent en bonne forme et en bonne santé. Ça, c'est primordial. Voilà.
En fait, la solution, c'est d'avoir des prairies qui donnent toute l'année, selon les périodes.
La solution, c'est d'avoir de la souplesse. C'est d'avoir de la souplesse dans ces surfaces. C'est aussi de bien. Tu m'as parlé tout à l'heure des jeunisses de viande qu'on a laissées. C'était un projet de départ. On avait des animaux. C'est-à-dire que l'effectif animaux présent sur l'exploitation, on doit l'adapter au foncier qu'on a. C'est-à-dire qu'on va lier la production avec nos potentiels de production. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'animaux qu'il nous en faut. Il ne s'agit pas de nourrir des animaux qui ne vont rien nous rapporter. C'est-à-dire qu'il faut bien maîtriser. Alors, il y a de l'historique dans l'exploitation. C'est-à-dire que moi, j'ai un effectif de renouvellement qui n'était pas présent parce que l'histoire fait qu'il y a eu beaucoup de mortalité à un moment donné. Bon, plein de choses, on revient pas en arrière. C'est pas là comment la vie, elle est pas derrière, elle est devant. Aujourd'hui, on va être en mesure de vraiment de trier, sélectionner les jeunisses qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'on va bien adapter les effectifs animaux, les vaches laitières, les jeunisses, à notre production. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a élevé depuis un an toutes les jeunisses femelles, donc c'est vrai qu'on est un petit peu chargé, mais c'est volontaire. Mais ça va se résorber avec le temps. Il nous faut encore une année ou deux. Une culture, on la met en place à un printemps. Si on se trompe, on peut rectifier l'année d'après. Une jeunisse, quand c'est mal fait, c'est 3 ans. Donc quand le schéma est mal parti, il faut deux années et demie, 3 ans pour rectifier le tir. Quoi. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà.
Du coup, le second levier se porte sur l'association céréales protéagineux à double fin. Nous avons fait ce choix de cette carte car l'exploitation est en capacité de le faire sans se mettre en péril. Et de plus, elle donne des rendements tout en étant riche en azote.
Alors, cette méthode, ça peut s'appeler des métailles. On avait un métail de mis en place, mais le métail, on ne le met pas simplement en place, on le récolte parce que une fois qu'on a récolté ces cultures-là, ça ne repousse pas forcément. Donc, on l'avait associé à une prairie. On avait associé une prairie multi-espèce, donc on a tout implanté en même temps, et c'est par celle-là qui a été mise en place. La seule chose, c'est que c'est une chose dont on n'a pas parlé encore dans les interviews, c'est que on a sur notre foncier 20 hectares environ qui sont en occupation précaire, c'est-à-dire que c'est des terrains qui me sont loués, mais qui peuvent être repris quand les personnes qui me les louent en ont besoin. C'est ce qui va nous arriver, notamment avec une zone de construction sur Saint-Hilaire-du-Harcouët, la zone de la fosse aux loups. Et en l'occurrence, à terme, on va perdre 6 hectares. Alors, face à ça, déjà, c'est 2 hectares cette année, parce qu'il y a la construction de nouveaux magasins, de développement, on peut pas aller contre le développement, et c'est par celle-là, de toute façon, quand on est en occupation précaire, on sait bien qu'on va pas les avoir tout le temps. Donc par rapport à ça, par rapport à ma surface d'implantation en maïs, j'ai été obligé de corriger ce tir-là, parce que j'aurais pu très bien me choisir d'implanter les 4 hectares dans cette future zone-là, mais personne n'a l'idée de quand est-ce que les travaux vont commencer et comment ils vont se faire. Alors j'ai eu des gens au téléphone, mais ils vont m'envoyer un plan, mais je sais bien les constructions, comment ça se passe, ça s'est déjà arrivé par le passé sur Saint-Hilaire, même s'il y a du maïs en place, ils vont creuser dedans. Donc moi j'ai choisi de ne pas implanter ces 6 hectares-là. Alors par rapport à ça, il faut quand même une surface minimum en maïs pour l'instant, parce que c'est quand même le fourrage sécuritaire, hein, malgré tout, en attendant de trouver une culture qui puisse le remplacer, eh ben, j'ai été obligé de casser un peu de prairie pour mettre du maïs à la place. Voilà. Bon, l'année dernière, on avait 15 hectares de maïs, cette année, j'en implante que 13. Voilà. Et puis on va pallier avec des stocks de fourrage, d'herbes, etc., qu'on va pouvoir faire assez souvent. Et puis, j'exclus pas l'option d'achat de maïs extérieur. Mais encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de réserves, parce que j'ai un objectif aussi financier. Hein. Il faut que notre exploitation, parce que c'est celle des élèves aussi, hein, notre exploitation arrive à un niveau économique acceptable, voire zéro. Il faut que je paye mes charges, il faut que je paye les salariés. Il faut que, voilà. Donc, c'est une piste. Que j'ai réfléchi. Après, j'ai aucune traçabilité sur du maïs qui a été fait par un exploitant à côté, sur les phytos, sur etc. Sachant qu'on a un objectif aussi, comme vous l'avez entendu, de réduire, voire d'arrêter. Voilà. Donc pour l'instant, c'est une option. La seconde option, c'est retrouver des surfaces. Donc ça, c'est pas moi qui vais l'inventer. Des surfaces disponibles à côté de l'exploitation, il y en a. Maintenant, nous, la structure d'une exploitation comme ça, c'est on maîtrise pas. Moi, j'ai pas la capacité de m'offrir du forage parce que on est limité. C'est-à-dire que c'est notre financeur, nos instances de tutelle qui doivent nous financer. Voilà. Donc c'est la région Normandie qui éventuellement pourrait me financer du foncier. Donc voilà, il y a des pistes, on réfléchit avec des organismes pour voir comment faire. J'ai des propositions, mais voilà, je peux pas vous dire grand-chose pour l'instant. Il y a rien de fait. C'est une des solutions. Je veux préciser que nous, on n'a pas vocation à avoir une grosse exploitation avec beaucoup de surface. Ce qu'il faut, c'est qu'on allie, encore une fois, notre production avec le foncier.
Voilà. Que vous soyez en autonomie alimentaire.
Alors, autonomie alimentaire, c'est un grand mot, parce que si on prend nos productions, bon, déjà, on a une spécificité, c'est qu'on a du robot et du pâturage. C'est-à-dire que nos vaches laitières, pour qu'elles se fassent traire, il faut qu'elles reviennent au bâtiment. Donc, il faut tout le temps qu'on leur distribue quelque chose à l'auge. Hein, c'est simple. Hein. C'est une petite carotte pour qu'elle revienne au bâtiment, manger un petit peu et se faire traire en passant. Bon, ça, on arrive à le faire parce qu'on peut mettre du foin, on peut mettre des concentrés. Mais l'achat extérieur, en fait, l'autonomie alimentaire, on peut l'avoir sur les fourrages, mais on ne l'aura pas sur les céréales. C'est-à-dire que si je veux l'avoir sur les céréales, c'est plus 15-20 hectares qu'il me faut, c'est 30. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Maintenant, avec 15-20 hectares, je pourrais diversifier mes assolements, on pourrait mettre une céréale en plus. Voilà, je l'avais envisagé cette année, de mettre une orge de printemps pour faire consommer soit nos ovins, soit les vaches. Mais vu les circonstances de la perte des terrains que j'ai cités tout à l'heure, ça, j'ai écarté ça pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on serait en mesure de faire une céréale qui serait autoconsommée et forcément d'acheter beaucoup moins à l'extérieur. Ça, c'est clair. Mais encore une fois, c'est lié aux surfaces disponibles.
Mais actuellement, là, le Sheltel, il a environ à 60 vaches laitières. Est-ce que combien ça va réduire d'ici là, si vous n'arrivez pas
à... Alors concrètement, j'ai réfléchi à la question. Si jamais je perds mes 6 hectares, si jamais j'ai pas d'autre solution, si j'achète pas l'extérieur, c'est 22 vaches de moins, c'est 6 genisses en moins. Concrètement, c'est 40 000 euros de moins sur l'exploitation. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai calculés, c'est des chiffres qui ont été présentés au conseil d'administration. Voilà. Donc c'est juste pas possible, ça veut dire que cette somme-là, ça veut dire que demain, je peux plus payer le salarié, je peux plus payer les charges, etc. Et on peut pas se dire, bon bah ça sera moins 40 000 et puis c'est tout. Non, c'est pas une solution ça. C'est pas une solution. La meilleure solution, c'est, voilà, on a une mission d'enseignement, c'est enseigner à produire autrement. On nous parle d'agroécologie, transition agroécologique, on nous parle de réchauffement climatique, etc. D'autonomie alimentaire. La meilleure solution, c'est de me retrouver 10-15 hectares. J'insiste, hein, mais c'est vital, quasiment vital pour nous. Voilà.
Il faut vraiment maintenir la ferme et la soutenir.
Et puis, il y a quand même un léger détail, c'est une ferme pédagogique. Il faut qu'on soit représentatif d'un système qui peut se transposer dans la nature. C'est-à-dire qu'on forme des apprenants, on vous forme au métier de demain. Il faut qu'on soit un peu crédible quand même, parce que on parlait de la troupe ovine tout à l'heure. On va pas ouvrir une formation avec 4 moutons et puis un bélier. Il faut qu'on ait une petite dimension quand même, qu'il se soit concret, que ça puisse vous situer dans le phénomène de production. Voilà. On peut réduire, c'est sûr. On pourrait descendre à 20 vaches, 30 vaches, 40 vaches. Maintenant, économiquement, ça passe plus, quoi. Ça passe plus. Voilà. Vous avez d'autres questions ?
Non, on n'a pas vraiment d'autres questions.
Alors, la solution de tout ce qu'on parle, c'est vrai que c'est moi qui réfléchis avec les salariés, avec le conseil d'administration, avec pas mal de gens. Les meilleures idées, des fois, viennent des élèves aussi. Vous y allez tout le temps sur l'exploitation. Donc, tout est ouvert. Moi, je suis ouvert à tous les questionnements, à toutes les réponses qu'on peut vous apporter, comme on fait ce matin. Et puis, des fois, il y a des très bonnes idées de la part des apprenants et il faut que vous soyez inclus. Et ça, c'est hyper important. Vous soyez inclus dans les prises de décision. Alors, faut pas m'inventer des trucs farfelus, hein. On va pas se mettre à faire je sais pas quoi. Mais toutes les pistes peuvent être étudiées. C'est pour ça que j'en ai parlé dans l'interview un petit peu sur le terrain. C'est le conseil d'exploitation spécial apprenant. Bon, c'est vrai que ça passe tellement vite. Je sais pas si cette année scolaire, je parle. J'aurai le temps de le mettre en place, mais je vous le promets que pour le septembre prochain, ça sera mis en place. Bon, ça se réunira pas toutes les semaines, hein. C'est deux ou trois fois selon l'actualité dans l'année où on pourra échanger. Ça sera un conseil que apprenant et moi. Voilà. D'accord. Parce que je me dis qu'il y a des élèves qui sont déjà présents au conseil, aux différents conseils. Mais face à un nombre de personnes, face aux enseignants, face aux responsables, ils ont parfois, à mon avis, un peu peur d'intervenir. Là, on va être ensemble. Il y a aucun problème. Quoi. Je pense que voilà. Donc, ça sera des représentants de chaque classe, parce que je peux pas voir toutes les classes. Donc, ça sera à vous de choisir. On pourra faire un roulement, que ce soit pas tout le temps les mêmes élèves qui viennent. Ça sera pas forcément que le délégué. C'est des élèves qui veulent venir assister. Voilà. Après, sur le quel timing, on verra. Ça sera certainement un soir après les cours. C'est le plus facile. Voilà. Mais ça sera au rythme de deux ou trois par an, quoi. Voilà.